Écho d'économie.
Lubumbashi accueille la 9e Expo Béton. Le chef de l'État y est attendu pour lancer ce jeudi les activités autour du thème stratégique des corridors sud RDC-SADC et des opportunités d'affaires régionales. Les régies financières dépassent les objectifs du premier trimestre 2025 avec 109% de réalisation par rapport au plan de trésorerie. Le gouvernement est également mobilisé pour renforcer l'encadrement fiscal en ce mois d'avril, mois décisif pour la souveraineté budgétaire. Bienvenue à tous. La ville de Lubumbashi va abriter ces jeudis les activités de la 9e édition de l'Expo Béton. Le chef de l'État est attendu à Lubumbashi pour lancer officiellement les travaux. Thème principal, les corridors sud de la RDC-SADC, projet à développer et opportunités d'affaires. Des stands sont érigés dans l'enceinte du nouveau bâtiment de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Paul Mounanga nous en dit plus.
Plus de 70 stands sont érigés et occupés par des exposants des produits de plusieurs secteurs tels que les mines, les banques, les médias, les transports, la télécommunication et tant d'autres. Pour les organisateurs de cet événement, il y a des acteurs publics et privés ainsi que les professionnels tant nationaux qu'internationaux qui se réunissent pour un partage et un approfondissement des réflexions au sein des ateliers techniques. Beaucoup de sujets seront abordés dans différents panels au cours de cette activité. C'est notamment les défis de la planification urbaine en RDC, entre la révolution industrielle et minière, la croissance démographique et les enjeux environnementaux. Il y a aussi le défi de l'intégration des espaces Grand Katanga et Grand Kasai dans les réseaux du corridor de Lobito comme catalyseur de l'interconnectivité régionale. Un autre panel va tabler sur l'énergie et l'eau, le développement urbain, la transformation et la chaîne de valeur locale. Signalons que les représentants des étudiants des différentes universités par faculté vont aussi présenter des travaux sur la agro-industrie et les matériaux intervenant dans la chaîne de production énergétique. Lubumbashi, Paul Mounanga, Radio Okapi.
Rendons-nous dans la partie est du pays où les opérateurs économiques du secteur minier du Nord et du Sud Kivu dénoncent l'intensification de pillages de leurs biens par les rebelles terroristes du M23. Le dernier cas en date remonte au week-end dernier dans la ville de Goma. Tous les biens et colis des minerais de la société CJX ont été pillés et tous les matériels emportés. Emmanuel Elamijoa Kabidi nous fait le point.
Dans la nuit du dimanche 13 avril 2025, des éléments lourdement armés de la rébellion terroriste AFC-RDF ont fait irruption à la succursale locale de la compagnie CJX à Goma. Les témoins affirment que rien ne leur a échappé, tout a été emporté. Les visiteurs indésirables venus avec des camions ont même désinstallé et ramené les matériels de traitement de minerais. Les opérateurs économiques de cette zone disent payer ainsi les lourds tributs depuis l'occupation des villes de Goma et de Bukavu par ce rebelle. Des pillages répétés et ciblés de biens et des tonnes de minerais emportés par ces éléments rebelles contraignent ces opérateurs économiques à fermer leurs portes et renvoyer des centaines de travailleurs en congé technique. C'est le cas de la société CJX Mineral, la plus grande société congolaise exportatrice de minerais de la catégorie B de la filière stanière, les 3T. À ce jour, au moins 150 employés de CJX Mineral sont contraints de rester à la maison et la société estime les dommages causés à plus ou moins 3 millions de dollars américains. Et pourtant, entre 2002 et 2024, la société CJX Mineral a payé presque 10 millions de dollars américains en termes d'impôts, taxes locales et nationales ainsi que toutes les obligations internationales. Une contribution remarquable à l'économie du pays. Ainsi, pour les opérateurs économiques du Kivu dans le secteur minier, il est temps que cet acharnement s'arrête.
Cette insécurité persistante dans l'Est met en péril les recettes issues du secteur extractif, dont la gestion fait déjà l'objet de critiques. Le Centre de recherche en finances publiques et développement local, CREFEDEL, vient justement de publier une analyse approfondie sur la faible captation des revenus par le Trésor public. CREFEDEL a effectué entre janvier et mars 2025 une analyse des revenus générés par le secteur extractif, mines et pétrole en RDC. Ce travail travail s'est basé sur l'examen des lois des finances 2020-2024, ainsi que des rapports publiés par l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives en RDC, ITIE, RDC. Blaise Ndongala Mayanda a lu pour nous ce rapport. Suivez son récit.
Ce travail s'inscrit dans le cadre du monitoring budgétaire effectué par la société civile de la RDC. Au terme de l'analyse, CREFDEL révèle un faible bénéfice pour les trésors publics. De 2020 à 2022, la valeur des matières premières produites par la RDC a atteint 71,3 milliards de dollars américains, alors que le gouvernement n'a capté que 12,5 milliards de dollars américains, soit 17,53%. Les CREFDEL notent cependant qu'entre la valeur réelle des matières premières produites en 3 ans et celle renseignée dans les documents budgétaires, il se dégage un écart significatif de 58,7 milliards de dollars américains. Se basant sur les productions, la valeur réelle des matières premières sorties des terres de la RDC s'établit à 31,7 milliards de dollars américains en 2022 contre 15,3 milliards de dollars en 2020, soit un accroissement d'environ 50%. Par ailleurs, les CREFDEL recommandent à la Cour des comptes et à l'Inspection générale des finances d'auditer la chaîne de la recette des secteurs extractifs pour dégager les volumes réels des encaissements de l'État et pousser à la redevabilité des autorités.
Malgré ce constat préoccupant sur le rendement du secteur extractif, il faut noter que les régies financières, elles, ont enregistré des bonnes performances au premier trimestre 2025, un motif d'espoir pour les finances publiques selon le ministre des Finances. Les régies financières ont atteint de manière globale 109% du taux de réalisation de recettes par rapport au plan des trésoreries et 97% par rapport aux assignations linéaires du budget pour le premier trimestre 2025. Ceci ressort d'une réunion d'évaluation tenue lundi à Kinshasa entre le ministre des Finances, son adjointe, l'inspecteur général des Finances, les directeurs généraux des trois régies financières ainsi que plusieurs experts du secteur. La réunion a porté bien évidemment sur l'évaluation des recettes, mais aussi sur la définition des mesures à adopter pour garantir une mobilisation optimale durant le mois d'avril, période charnière pour l'exécution budgétaire annuelle. Ces résultats, salués par le ministre Doudou Fouamba, témoignent à la fois d'une résilience institutionnelle et d'un engagement renforcé dans l'effort de collecte des ressources internes. Le mois d'avril, marqué par l'échéance fiscale majeur lié au paiement de l'impôt sur les bénéfices et profits IBP a été également identifié comme un moment décisif. À cet effet, des mesures de cadrage ont été arrêtées pour optimiser l'encadrement fiscal et assurer une mobilisation soutenue. Cette dynamique s'inscrit dans une volonté de consolider les recettes internes, socle de la souveraineté budgétaire nationale, particulièrement dans un contexte où les dépenses de sécurité, de solidarité et de résilience économique demeurent prioritaires. L'invité de l'économie, c'est le ministre provincial des Finances du Maniema, professeur Ali Kamasawili, parle des innovations apportées au sein de son ministère et adoptées au Conseil des ministres pour permettre à la province du Maniema de mobiliser beaucoup plus de recettes. Professeur Ali Kamasawili s'entretient avec Florence Kizalunga.
Monsieur le ministre Ali Kamasawili, bonjour.
Bonjour madame la journaliste.
Parlez-nous de ces innovations.
La première innovation, c'est l'adoption de l'arrêté ministériel relatif à une direction qu'on a créée au sein de la DGRMA qui devait uniquement s'occuper des impôts. Mais en même temps, nous avons proposé au Conseil des ministres et on a adopté les classements des rangs pour la facilitation des calculs de l'impôt foncier selon l'importance, les quartiers, la commune.
Monsieur le ministre, parlant de rangs de maisons, vous vous attendez à quoi?
Nous pouvons avoir tous la même superficie bâtie d'une maison. Mais ces maisons-là n'ont pas la même valeur. Il y a une différence selon les quartiers, la commune. Même à Kinshasa, une maison qui se trouve à Gombe, on ne peut pas comparer avec celle qui se trouve à Lemba. C'est ça la philosophie que nous avons ramenée en province pour que chaque impôt foncier puisse payer selon la valeur de là où la maison est érigée.
Qu'est-ce qui motive ces innovations?
Vous noterez que la DGRMA a été créée en 2009. Lorsque cette DGRMA a été créée, les provinces n'avaient que la possibilité de percevoir les taxes. Mais en 2018, il y a une ordonnance qui a été signée par son Excellence Monsieur le Président de la République. Et dans cette ordonnance, certains impôts qui relevaient du gouvernement central ont été rétrocédés en province. C'est notamment l'impôt foncier dont je venais de faire référence, l'impôt sur les revenus locatifs. Il en est de même de la plaque plaques des motos, alors que jadis, cette plaque, c'est la DGI qui l'a délivrée, toutes les vignettes, mais également l'impôt sur les concessions minières. Alors, le fait que ces impôts ont été rétrocédés, au niveau de la DGIRMA, il n'y avait aucune direction qui s'occupait des impôts, comme je venais de dire. Sa création, la DGIRMA, c'est 2009. Les impôts sont venus en 2018 avec l'ordonnance, d'où la nécessité de résoudre cette inadéquation. Et on a proposé au Conseil des ministres la mise en place d'une direction qui va s'occuper uniquement des impôts au sein de la DGIRMA.
Monsieur le ministre, vous ajoutez des charges à la Direction provinciale des recettes du monument. Et autrefois, vous avez décrié que cette direction ne faisait pas bien son travail. Alors, vous avez déjà changé des animateurs ou bien vous avez renforcé leurs capacités pour maintenant espérer des bons résultats?
Je ne pense pas que c'est une charge qu'on ajoute. Par contre, c'est une spécialisation qu'on amène. C'est un produit, à mon humble avis. Donc, le fait d'avoir une direction à part des impôts, parce que, comme vous le savez, il y a une différence entre l'impôt et la taxe. La taxe a une contrepartie directe, alors que l'impôt, c'est un fourre-tout. Donc, il fallait quand même avoir des agents qui vont s'occuper uniquement des impôts. Et là, nous comptons peut-être travailler en partenariat avec les agents de la DGI pendant que nous allons petit à petit former nos propres agents. Et donc, je crois que ce n'est pas une charge, mais c'est plus un produit.
La direction ici et dans les territoires, ça va fonctionner comment?
C'est la même chose comme la direction des ressources humaines, la direction des contrôles. Cette direction des impôts va s'étendre sur l'ensemble de la province. Le directeur sera ici à Kindu, mais à l'intérieur, il y aura des chefs de bureau, il y aura quelques chefs de division, comme les autres directions fonctionnent. Mais la seule différence que ceux de la direction des impôts ne s'occuperont que des impôts qui sont au nombre de 6 au niveau de la province.
Avec comme rôle principal?
De récolter les impôts qui sont différents des taxes. Ça veut dire l'impôt foncier, l'impôt sur les revenus locatifs, les vignettes, la plaque de la moto, l'impôt sur les concessions minières. Mais en même temps, pour revenir à l'une de vos questions, on fait toujours un effort de faire le renforcement des capacités des agents. Un programme a été élaboré quant à ça. Nous travaillons de commun accord avec la DGI, la DGRAD et quelques experts qui vont nous aider à niveler vers le haut les niveaux de nos agents au niveau de la direction provinciale des recettes du maniement.
Et la canalisation sera bonne, nous pensons, cette fois-ci?
C'est vrai, nous sommes dans une situation de sous-bancarisation au Maniema. Vous le savez bien qu'on n'a que deux banques au niveau de la ville de Kindu. À l'intérieur, c'est un problème. L'idéal aurait été, si on avait des banques partout, on allait tout bancariser. Mais pour le moment, nous sommes en pourparlers avec les maisons de télécommunications pour voir comment utiliser les PPL mobiles et d'autres monétiques afin de pouvoir rentabiliser cette canalisation. Des recettes.
Monsieur le ministre Ali Kiama Sawili, merci.
C'est à moi de vous remercier, madame.
Ainsi prend fin Écho d'économie d'aujourd'hui. Debs Vita a été à la prise de son, Polydor Basunga à la mise en onde. Je suis Jocelyne Moussaou. Merci de nous avoir suivis.